الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sœurs, chers amis, Monsieur Souleymane Bachir Ndiaye est président de la séance. Recevez mes chaleureuses salutations. Effectivement, on a eu la possibilité de se rencontrer à plusieurs reprises depuis quelques mois, et toujours dans un dialogue fructueux. Je vous remercie en plus d'avoir chaque fois donné de votre temps pour être parmi nous lors de ces visites et de ces rencontres. J'aimerais également saluer l'ensemble des participants. J'espère que nous aurons effectivement la possibilité de faire un débat qui soit un débat qui se donne le droit et qui comprend la nécessité d'aller loin et profondément dans des réflexions sur cette question du renouveau islamique. Parce que ce qu'il me paraît, c'est que nous tombons les uns et les autres, et du point de vue de ceux qui sont critiques par rapport à l'islam ou par rapport aux mouvements islamiques, et par rapport aux musulmans qui participent à la réalité et à la vie de ces mouvements, nous tombons trop souvent, malheureusement, dans la simplification et la caricature réciproque. Et sans vouloir vous choquer ni vous provoquer, je vais être très sincère avec vous, je vois et je rencontre autant de caricatures chez ceux qui critiquent l'islam que chez un certain nombre de personnes engagées dans les mouvements islamiques par rapport à leurs interlocuteurs en Occident. Et c'est ce que nous n'avons pas le droit de faire en tant que musulmans, en tant que musulmanes. À aucun moment il ne nous est donné le droit, quand le monde entier ferait la caricature de l'islam, nous, il ne nous est pas donné le droit devant Dieu de faire la caricature de nos interlocuteurs, ni de leur pensée, ni de leur histoire, ni de leur position. En d'autres termes, il faut s'engager et s'imposer une réflexion profonde sur les débats en cours, une réflexion qui ne simplifie pas les tenants du débat qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, comme ce n'est pas une conférence mais une table ronde, je vais synthétiser plus souvent que d'habitude encore le propos qui est le mien, celui qui pose la question de l'alternative possible qu'offre le renouveau islamique au début du troisième millénaire. Et je vous propose une réflexion qui s'articulera en trois moments synthétiques et rapides. La première des choses, c'est effectivement, et vous avez fait l'introduction ou une partie de l'introduction que je m'apprêtais à faire et dont je m'appuierai sur ce que vous avez rappelé, à savoir la question du réveil de l'islam aujourd'hui et de cette question du réformisme et du renouveau, une espèce d'approche terminologique et une approche de définition et de précision. Le deuxième moment, c'est de percevoir quelle est la particularité de ce renouveau au siècle qui est le nôtre et dans le présent qui est le nôtre. Et le troisième moment, ce sera effectivement de montrer dans quel domaine une alternative, ou en tout cas une réflexion alternative, est proposée à l'heure de la mondialisation par les courants musulmans et par les intellectuels musulmans de la même façon. Allons immédiatement à cette première partie et posons-nous la question de ce réveil et de ce renouveau. J'aimerais vous dire une chose. Si vous revenez à la littérature des orientalistes, et ceci est même de la littérature musulmane, vous allez vous apercevoir qu'on parle de renouveau et de réveil de l'islam depuis des siècles. Ce n'est pas quelque chose de très récent. On en parle depuis très longtemps, de cette idée d'un réveil de l'islam. Et c'est vraiment un thème récurrent de la littérature musulmane, mais également, quand on a voulu effrayer les gens par rapport à l'islam, de la littérature orientaliste. Ça ne date pas d'un siècle, mais en tout cas, de trois siècles et des trois derniers siècles, on a un certain nombre de penseurs, jusqu'à des penseurs dont on s'attendrait à plus de méconnaissance dans la question, comme Voltaire, parle déjà d'une idée d'un réveil. Donc nous sommes à ce moment-là au XVIIIe siècle. Donc en l'occurrence, ce thème est récurrent et nous demande à nous de savoir de quoi on parle quand on fait réveil, quand on fait appel à ce concept. Alors, effectivement, ce qui est mis en évidence, c'est le retour chez les intellectuels ou les autorités ou les savants musulmans, le retour à leur référence fondamentale, suivi d'un effet et d'un élan sur le plan social ou sur le plan politique. C'est-à-dire une sorte de réaction identitaire par rapport à l'influence extérieure, mais également simplement par rapport à la revivification qui était présente dès le début de l'islam et qui est annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonçant que chaque 100 ans, un homme, un réformateur, un mujaddid viendrait effectivement renouveler, non pas les sources. Et là, il faut être très très clair aussi sur cette question de réformisme. Il ne s'agit pas de revoir les sources, il s'agit d'en revoir les modalités de la lecture et de la compréhension. Quand nous parlons de renouveau et même de réformisme, c'est comprendre de nouvelles façons les sources parce qu'on est plongé dans un nouveau contexte. C'est une nouvelle intelligence des textes alors que les textes n'ont pas changé. Et ça, ce n'est pas rien encore de prendre conscience de ce que cela veut dire. L'éternité de la référence, la relativité de l'intelligence et de sa compréhension. Eh bien, ce mouvement-là, il a traversé les siècles. On a tout souvent très très mal présenté, chez les orientalistes en particulier, mais Henri Laoust, parmi les orientalistes, lui a rendu justice d'une certaine façon, Ibn Taymiyyah, dont on dit le plus grand mal chez beaucoup d'orientalistes, c'est sans doute faute de l'avoir bien lu et d'avoir lu la profondeur de la pensée d'un homme qui a participé à un réveil de l'intelligence musulmane à partir du XIVe siècle. Ce mouvement-là, effectivement, semble s'accélérer depuis 150 ans et plus encore durant ce dernier siècle. Alors c'est de cela dont il faut que nous parlions, puisque le sujet est quand même un sujet vers l'avenir, et de ne pas trop s'arrêter au passé. Mais quand même, pour comprendre quelle alternative possible est permise pour le futur, il faut au moins se souvenir de l'ancrage, finalement dans une séquence historique relativement courte, ce siècle, et la fin du siècle dernier. Pour ce qui concerne la fin du siècle dernier, on a quand même un certain nombre de choses qui vont mettre en évidence l'accélération de ce mouvement. La première des choses, effectivement, c'est la déliquescence de plus en plus évidente, même si elle a bien précédé 1924, mais la déliquescence de plus en plus évidente de l'Empire ottoman, avec un triple facteur, bien entendu l'oubli et la distanciation par rapport aux références musulmanes, mais d'un autre côté, effectivement, la division qui a été le fait, souvent, de l'influence de la mainmise coloniale, et en particulier, bien entendu, anglaise et française à cette époque, qui a fait, en général, dans la région des Balkans et dans d'autres régions africaines également, eh bien, qui a mis à mal l'unité de cet empire. Ce phénomène-là, il faut l'étudier. Il faut l'étudier parce qu'il est la substance vis-à-vis de laquelle va s'articuler la pensée d'un El Havreni, par exemple. il a en face de lui un monde qui, musulman, qui n'est plus fidèle du tout à ses références, et un monde dont il perçoit l'énorme emprise de la colonisation. Et dans l'accélération du mouvement et de l'articulation de la pensée réformiste, eh bien, ces deux phénomènes sont importants. Ne jamais l'oublier. La division des musulmans, la mainmise des colons. Et en général, l'une entraînant l'autre, bien entendu. Et l'une jouant sur l'autre. Le grand drame chez les musulmans qui ont toujours parlé d'unité, c'est d'avoir été sous l'influence et de s'être laissé influencer par le discours colonial défendant l'arabité contre le colonialisme turc, alors que tous deux étaient musulmans. La division. Et on va avoir, par rapport à cette réalité, des processus de résistance. Alors, ces processus de résistance, ils vont être le fait, bien entendu, de savants, d'intellectuels, et peu à peu, je n'ai pas le temps d'analyser l'ensemble de ce que vont donner ces résistances, mais il y a un fil conducteur. Ce fil conducteur, il est une pensée qui se construit à partir de ses références, mais qui s'élabore à partir de son contexte, qui se construit par rapport à ses références, mais s'élabore de plus en plus par rapport au contexte. Et nous allons voir pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette même situation et pourquoi notre avenir doit toujours partir de l'état des lieux dans lequel nous sommes. Alors, il y a un double phénomène. Beaucoup d'analystes du réformisme islamique n'ont insisté que sur le côté réactionnaire du retour aux sources de l'islam, en disant ils ne reviennent à l'islam que parce qu'ils perdent le pouvoir. Ils ne reviennent à l'islam que parce que la colonisation est réelle. Et certains musulmans disent non, ce n'est pas du tout cela. On revient à l'islam parce que c'est l'islam. Et je crois que les deux ont tort, comme les deux ont une partie de la réponse. Le processus de retour est forcément influencé par le contexte, bien entendu. Mais le processus qu'on appellera endogène, c'est-à-dire bien entendu dans la référence musulmane de revenir à ses sources naturellement, a existé, a toujours existé, et il a traversé l'histoire de notre religion depuis le XIVe siècle. Donc les deux mouvements sont présents. Et ce double positionnement va s'élaborer par rapport au contexte, et on va voir des choses très très étonnantes. Si on s'arrête d'abord à El-Evreni et Abdou, vraiment j'essaie de faire court, mais j'essaie de vous clarifier le paysage. On va s'apercevoir qu'ils sont essentiellement, même s'ils ont fait un travail social et même s'ils ont fait un travail intellectuel de diffusion de la pensée, sont et restent encore des intellectuels un tout petit peu en marge d'une vraie dynamique et d'un vrai élan social et politique. Mais il y a une chose qui est très très intéressante et qui marque effectivement ce que vous avez mis en évidence, la rupture de deux réformismes. Un réformisme qui est effectivement l'acceptation au nom de la réussite civilisationnelle des références islamiques, et qu'on a appelé le réformisme entre guillemets libéral. Et à côté de ceci, une position complètement différente qui est de dire la résistance à l'occupation passe par la réaffirmation de notre référence religieuse et de notre identité musulmane. Et ce phénomène-là, cette première posture, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle dit deux choses. Elle dit d'une certaine façon, bien avant que ceci se développe même chez les intellectuels en Occident, que le grand problème n'est pas uniquement un problème politique, que c'est un problème d'invasion culturelle, que c'est un problème d'invasion idéologique, que c'est un problème de mainmise sur les esprits et sur les cœurs dont il faut se libérer pour réussir le projet politique. On se croirait en 1998. On se croirait exactement dans l'époque qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont compris avant l'heure, mais ils ont compris au nom de quoi ? De leur référence musulmane. C'est peut-être aussi l'une des clés de ce secret de cette religion qui pour nous est une religion révélée, la dernière révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu, que de donner cette perception profonde de l'enjeu et des enjeux de la rencontre des civilisations dans une situation qui était une situation de colonisation à l'époque. Et de cette intelligence de la résistance, mais en même temps surtout de l'affirmation, donc je mettrai ceci dans ce sens-là, l'intelligence de l'affirmation et de l'affirmation à la résistance, pour répondre tout à la fois aux orientalistes qui en ont vu qu'un phénomène de résistance, mais pour réorienter la pensée de certains musulmans qui n'ont vu que le phénomène de l'affirmation. Eh bien, dans cette double position, de ce double positionnement, on va voir des gens qui vont élaborer. Au premier rang desquels, un homme en Égypte, qui est le disciple de Muhammad Abdou, va apporter quelque chose qui est une des dimensions qui va avoir un grand résonnement partout dans le monde musulman. L'idée de former, alors il utilise plusieurs termes, la notion de groupe, la notion de parti, la notion en fait de mouvement organisé et structuré de résistance. On est passé de la conceptualisation de l'affirmation et de la résistance à son ancrage pratique sans que ceci se soit réalisé. Et peu à peu, on va voir ce passage de la pensée théorique à la mobilisation pratique et concrète se faire et se réaliser au cours de ce siècle. Et c'est sans doute pour ceci, aujourd'hui, que le mouvement a pris et semble prendre une vitesse jamais connue auparavant. Et j'en dirai quelque chose dans ma troisième partie. Donc, on a tout à coup, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, la formation d'une pensée et d'un mouvement. D'un mouvement qui va prendre des allures différentes selon les lieux. Et donc, la structuration, effectivement, celle que j'ai aussi étudiée dans le texte, celle que proposera et que réalisera en Égypte Hassan el-Banna. Alors, et c'est ceci aussi qui est l'autre pan du réformisme. Non pas celui qui se plie à la réalité du succès, mais celui qui se fonde sur l'exigence des repères, sur l'exigence de la référence, pour marquer une compréhension d'une responsabilité fondamentale. Alors, posons-nous la question de savoir, aujourd'hui, sur quoi s'articule ce réformisme et ce renouveau musulman. Parce que, encore une fois, nous avons affaire parfois à un certain nombre de chercheurs en sociologie qui nous amènent immédiatement à la seule analyse des enjeux politiques de la présence d'un certain nombre de mouvements par rapport à la référence islamique. Et ça, c'est aller trop vite en besogne. Si l'on ne parle que du pan politique et du pan de la lutte pour le pouvoir, même si en plus certains musulmans tombent dans ce travers eux-mêmes d'être obnubilés par la prise du pouvoir, ce qui est une catastrophe sur le plan de la pensée profonde du réformisme, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de société. C'est une question de société, c'est une question fondamentale de société, et le pouvoir n'en est qu'un instrument. Aimer le pouvoir, ou se battre pour le pouvoir en oubliant sa société, c'est d'avoir complètement trahi la référence au fondement de l'islam. Le pouvoir, de ce point de vue-là, n'étant que l'instrument d'une pensée qui s'élabore sur le plan social. Eh bien, certains orientalistes nous amènent directement à des considérations qui sont des considérations de lutte, d'enjeu. Et par la fin, vous savez, on peut être très objectif sur son sujet d'étude, mais forcément en tromper l'approche, ou se tromper sur les résultats uniquement par le défaut de la méthodologie qu'on a utilisée. Si on entre dans cette question-là uniquement par l'approche de l'enjeu sociologique et politique, eh bien, on peut être très très objectif, et vous verrez un certain nombre de chercheurs très très objectifs sur leur sujet d'étude, de la façon dont ils l'ont choisi. Mais là où le problème apparaît, c'est dans la méthodologie qu'ils ont utilisée pour approcher cette question. Comme par exemple, de ne pas parler de la référence religieuse, de la référence fondamentale à laquelle autour de laquelle s'articule la pensée musulmane, et d'immédiatement partir sur les considérations politiques. L'approche est une approche tronquée. Elle oublie dans son articulation l'un des éléments majeurs du débat, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent quand ils disent qu'ils s'engagent socialement, à partir de quelles références, quel est le paysage dans lequel ils se dessine la pensée de ceux qui s'engagent au nom de l'islam sur le champ social et politique. Sans cette démarche-là, on trompe. On va faire une analyse de parti. On ne va pas faire une analyse de référence fondamentale ou d'approche circonstanciée d'une pensée qui se développe au travers d'une action. Alors, je l'ai dit. Déjà, cette pensée ne s'articule pas uniquement à partir de la réaction. Il y a clairement, et aujourd'hui encore, un travail qui est un travail sur la propre source et un renouveau de la compréhension de ces sources de façon endogène. Évidemment, le contexte social et le contexte politique va pousser les penseurs musulmans à orienter leurs recherches par rapport à cette question du défi de la modernité, par exemple, ou du défi du monde moderne. Sur le plan culturel, c'est également important. L'intuition fondamentale de se dire, si nous ne réglons pas la question de la colonisation des esprits, nous n'aurons pas réglé la question de la colonisation politique et économique. Et ça, c'est peut-être la vraie question aujourd'hui. La colonisation intellectuelle, la colonisation culturelle est sans doute l'une des clés sur laquelle s'assoit aujourd'hui la colonisation économique et la colonisation politique, même si la colonisation politique n'est pas ce qu'elle était. Mais on sait aujourd'hui qu'avec l'économie, on fait les choix politiques. Eh bien, cette double dimension, il faut la retenir, comme il y a une chose qui est fondamentale pour nous et qui doit vous interpeller, vous, au premier chef au Sénégal. C'est la question, pour le réformisme, de l'identité. Quelle est l'identité des musulmans et quelle identité est la leur dans ce monde moderne? Parce que il y a deux façons de poser la question de l'identité. Et là aussi, si c'est une identité par réaction, et vous compreniez bien pourquoi je pose le débat de savoir qu'est-ce qui a donné vie à ces mouvements? Est-ce que c'est une dynamique endogène ou est-ce que c'est une dynamique réactive? Parce que si c'est une dynamique endogène, on comprend qu'on fonde son identité en fonction de ses références. En d'autres termes, pour le musulman, qu'est-ce que Dieu dit qu'il faut que je sois? Mais si je définis mon identité de façon réactive ou dans une dynamique réactive, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne veux pas être? Quel autre? Et c'est par rapport à l'autre. Ce serait une définition, par exemple, contre l'Occident et non pas pour Dieu. Mais ce n'est pas la même chose de dire « je suis, mon identité est contre ce qu'on me propose » ou de dire « mon identité est pour Dieu et voyant ce que les autres proposent ». Cette dimension-là, elle est importante et vous la rencontrez individuellement chez des frères et des sœurs. Parfois, ils se définissent par rapport à ce qu'ils ne veulent pas être. Mais rien dans l'islam ne leur demande de faire ceci. On leur demande de se définir par rapport à ce que Dieu leur demande d'être, par rapport à ce que leurs références leur enseignent. Et quand on se définit par rapport à ces sources, on est exigeant mais ouvert. Mais quand on se définit par rapport aux autres, on est réactif et fermé. Forcément. Forcément. Et toute notre perception de l'identité, c'est d'être exigeant et ouvert, mais exigeant. Pas d'une ouverture qui est une ouverture porte ouverte toute l'année, tellement ouvert que je ne suis plus rien de ce que je pensais pouvoir être, tellement j'ai laissé tout passer de ce qu'il voulait que je sois. Mais une exigence et une ouverture, et non pas une crispation. Et je vous avouerai qu'en voyageant beaucoup, l'une des choses qui est le mieux réussie aujourd'hui dans les communautés musulmanes du monde, c'est la définition d'une identité réactive et ferme. C'est-à-dire d'une identité craintive, frileuse et peureuse. Il y a beaucoup trop de musulmans et de musulmanes qui ont assimilé, digéré la peur. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est comment s'affirmer, vivre son identité sans peur des hommes, tant il est vrai que nous avons peur du Créateur des cieux et de la terre, au sens de cette crainte révérentielle qui nous est enseignée dans notre spiritualité. Eh bien, cette question de l'identité, elle est fondamentale, et à partir de quoi elle va s'articuler? Eh bien, vous le savez, les références coraniques et les références de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont effectivement ce sur quoi on se base pour définir cette identité. Une identité qui, et puis en même temps, de l'attitude très positive et très dynamique de Salaf al-Saleh, c'est-à-dire des premiers musulmans qui avaient par rapport aux sources islamiques un formidable respect et une formidable envie de dynamisme. Ils étaient respectueux dans l'orientation, dynamique dans la compréhension et dans l'intelligence de leur application. Ils avaient l'audace de la fidélité et non pas la crainte de la littéralité. Mais l'audace de cette fidélité, c'est-à-dire rester fidèle à la compréhension et avancer. Et les réformistes que nous avons, ceux dont nous avons parlé, eh bien, sont des réformistes qui veulent retrouver ce dynamisme-là, rester fidèle, mais dans la fidélité, avoir cette affirmation positive devant Dieu de son identité musulmane. Alors, sur quoi va se baser en fait, ou se base aujourd'hui ce réformisme et ce renouveau? À partir de cette relecture et de cette compréhension nouvelle des sources, de, en tout cas, trois dynamiques. La première des choses, c'est l'éducation. On ne peut pas développer, fonder, enraciner, orienter l'identité d'un être sans avoir les yeux braqués sur l'éducation de cet être. Une éducation globale qui part des quatre éléments fondamentaux de l'identité musulmane, la foi, la pratique et la spiritualité, le premier, le deuxième étant effectivement l'intelligence et de la compréhension des textes en fonction du contexte où l'on se trouve, le troisième élément de l'identité étant le fait d'éduquer, de transmettre, et le quatrième élément de l'identité étant le fait d'agir et de participer. Eh bien, cette éducation, elle est la clé. Elle est la clé pourquoi? Parce qu'elle met en évidence le double mouvement endogène de présentation de la référence islamique, mais en même temps de la possible résistance dans son identité bien comprise par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. La deuxième des choses, c'est effectivement, à partir de la fidélité aux sources, la double compréhension de la référence islamique et du contexte dans lequel nous vivons. Et c'est peut-être aujourd'hui l'une des choses que le renouveau islamique a le plus apporté, mais qui n'est pas encore achevé, loin de là. La nécessité de comprendre le contexte dans lequel on vit pour rester fidèle à la source à laquelle on se réfère. Une nécessité importante de la compréhension du contexte. C'est un passage obligé. Et vous, au Sénégal, dans le mouvement, dans la référence islamique qui est la vôtre, le passage obligé, c'est de tenir compte du contexte dans lequel vous vivez et de trouver le bon équilibre de ce mouvement permanent entre la fidélité aux sources et la prise en compte du contexte dans lequel on vit. Et les réponses que vous apporterez ou qui sont à apporter dans un pays ne sont pas les réponses qui sont à apporter dans un autre. En d'autres termes, les réponses apportées en Malaisie, par exemple, que j'ai pu visiter cet été, n'ont rien à voir avec le mode de réflexion qu'il doit y avoir aujourd'hui au Sénégal par exemple. Et donc cette dimension de la compréhension du contexte. Et puis, à partir de cette éducation et la compréhension d'un contexte, c'est de proposer un projet de société. Et ça, c'est une dimension importante. C'est qu'à partir de nos sources et à partir de leur compréhension, les orientations qui nous sont données à partir de nos sources se traduisent par un projet de société à élaborer sur au moins 5 domaines. Le premier, j'en ai parlé, c'est l'éducation. Et le réformisme islamique ou le renouveau islamique place en tête de ses priorités pour aujourd'hui et pour l'avenir la question de l'éducation. Non pas simplement l'éducation religieuse, mais toute l'éducation. Une véritable éducation de l'être, non pas uniquement une éducation du savoir-faire. Une éducation qui rende l'homme responsable et non pas qui rende l'homme uniquement avide de ses droits, mais conscient de ses responsabilités. La première des questions, et nous allons y revenir. Le premier des domaines. Le deuxième domaine, c'est le domaine social. Le domaine social. On ne peut pas revenir à l'identité musulmane sans comprendre qu'un être qui porte et shahada et qui comprend le sens de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quelqu'un qui dit et qui professe cette shahada en 1998, comme il y a 14 siècles, comprend qu'il a un engagement social de premier plan. Et qu'il a, de ce point de vue-là, un engagement social, qu'est-ce que ça veut dire? Il a, de ce point de vue-là, à s'engager pour la justice sociale, à tous les niveaux. Comme étant une des priorités, vous m'avez bien entendu. En d'autres termes, déjà, c'est redispositionner nos priorités par rapport au processus de la mondialisation et de ses principales orientations. L'autre élément également, c'est sur tout ce qui concerne le domaine législatif. Autant nous sommes et nous défendons et nous nous proposons de nous battre pour l'état de droit. Et dans l'état de droit, d'orienter ce droit en fonction aussi d'une plus grande fidélité à notre source, mais dans la progression et l'intelligence du contexte. Cette idée, écoutez-moi bien, parce que là, je pense que il faut être clair, cette idée d'une application de la charia instrumentalisée par un certain nombre de pouvoirs pour appliquer immédiatement la répression n'a rien à voir avec ce que nous enseigne l'islam. L'islam, c'est un projet de réforme des comportements avec l'appareil législatif qui l'accompagne. Mais dire « j'applique l'islam » et commencer à réprimer, c'est de commencer par exactement le contraire de tout ce que l'islam nous enseigne. Et souvent, des pouvoirs qui étaient à des années-lumière de la compréhension de l'islam viennent et appliquent un système de répression. Mais l'islam, ce n'est pas la répression. On ne lutte pas contre des dictatures pour imposer la répression. Et surtout quand on s'en prend aux populations les plus pauvres. Or, un pauvre en islam qui vole pour sa survie n'est pas un voleur. Il n'est pas un voleur. Et malheur à celui qui coupe la main du voleur qui n'est pas un voleur. Et ça, c'est un discours que nous devons tenir haut et fort. Chacun d'entre nous doit être conscient de cette réalité-là. Sur le plan économique également, parce que le système économique qui nous a servi aujourd'hui et qui a une logique qui est presque plus maîtrisée, avec une maîtrise très très relative par les grandes institutions et même par les États, est aussi quelque chose sur lequel l'islam dit quelque chose, et en particulier sur toute la question de la spéculation, sur toute la question de l'intérêt, mais plus généralement également de toute cette injustice. Rien que par exemple par ce qu'on dit être l'injustice et le déséquilibre des termes de l'échange. S'il y en a encore aujourd'hui qui pensent par exemple que la maîtrise du pétrole est entre les mains des pouvoirs du Golfe, faut se réveiller, les frères et les sœurs. Faut se réveiller, c'est par là que les choses se passent. Ils reçoivent l'argent qui leur permet d'être riches et de se taire et de le lui dilapider, c'est certain. Mais toute la décision politique et l'orientation en matière, par exemple, de produits, des matières premières, en particulier du pétrole, ne se décide pas dans le golfe Persique. Et ça fait un moment déjà. Et ça fait un moment. Et donc le projet ici, c'est de revisiter toute cette démarche économique fondamentale, comme également la notion de, sur le plan politique. Mais je ne veux pas faire trop long, j'aurai plein de choses à dire et ça viendra sans doute dans le débat. Comme également la notion de, sur le plan politique. Mais je ne veux pas faire trop long, j'aurai plein de choses à dire et ça viendra sans doute dans le débat. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Nous sommes et nous faisons face, notre frère en a parlé, nous faisons face à la question aussi de la, c'était vous deux, je crois que vous en avez parlé, la question de la mondialisation. Sur la question de la mondialisation aujourd'hui, nous avons affaire à un fait, un constat qu'on peut difficilement contester. Posons-nous la question. Qui aujourd'hui, en matière de civilisation ou en matière de réflexion ou en matière de proposition alternative, fait face et arrive à proposer une résistance à ce processus-là? Qui, quelle civilisation, quel interlocuteur aujourd'hui résiste à cela? Et la question pour nous, elle mérite d'être posée parce que très vraisemblablement, et c'est d'ailleurs l'une des thèses, il a beaucoup de thèses dans son livre Le Clash des civilisations, Huntington, mais c'est l'une des thèses marginales mais en même temps très très importantes qu'il met en évidence, c'est que par rapport à ce qui est l'Occident et le processus de mondialisation, il apparaît que l'un des éléments de résistance va être le monde musulman, auquel il ajoute évidemment la Chine, mais il ne voit pas beaucoup d'autres éléments de résistance possibles et il déplace le champ du conflit du politique au culturel, en d'autres termes, ce qu'avait dit un grand nombre d'intellectuels musulmans il y a 150 ans. Eh bien, ce phénomène-là, il va forcément expliquer d'une certaine façon, mais pas complètement, la diabolisation à laquelle nous assistons du monde musulman. Il y a une véritable diabolisation. Alors, ne simplifions pas, parce que certains peuvent dire c'est parce que l'islam se présente comme la résistance à cette mondialisation qu'on diabolise. C'est une partie de la vérité, mais c'est vrai aussi que ce que nous voyons dans les sociétés musulmanes et ce que nous pouvons regarder aujourd'hui dans une analyse objective de ce qui se passe dans nos sociétés peut faire peur, est sujet à une véritable critique de notre part. Malheureusement, trop peu de musulmans font ce travail critique par rapport à leur propre société. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui est dit sur l'islam aujourd'hui en Occident, même s'il faut s'opposer à ses caricatures, à ses grossièretés, à ses mensonges, mais on ne peut pas dire que tout soit construit sur du vide. On ne peut pas dire ça. Et pour avoir visité un grand nombre de pays musulmans, je suis le premier à dire que tant que les musulmans n'établiront pas eux-mêmes une attitude critique par rapport à ce que proposent les sociétés dans lesquelles ils vivent, et surtout ceux qui ont la liberté de pouvoir le dire, et en particulier je me retourne chez beaucoup de mes frères et de mes sœurs qui vivent en Occident, et de dire « mais dites aussi les choses qui nous permettent d'avoir un discours clair ». Parce qu'on ne peut pas reprocher aux gens qui sont en face de nous d'avoir de l'islam une image qui est la caricature, si quand eux ils font la caricature, nous n'avons pas la plume ni la parole pour restituer une image qui soit juste, et de dire aussi qu'un certain nombre de comportements de musulmans et de musulmanes ne correspondent pas à nos références. Tant que nous n'aurons pas ce discours, nous ne pouvons pas reprocher aux gens d'entendre ce que personne ne leur a jamais dit parce que nos bouches se sont tues, parce que nos témoignages ne sont pas authentiques ni vivants, parce que nos comportements, même là où nous vivons, ne sont pas suffisamment à l'image de ce qu'on dit. Et souvenez-vous, mais vraiment de la plus grande des forces, de ce verset du Coran qui a été révélé avec des compagnons du prophète, qui était assis et qui dit « Si l'ennemi vient, nous irons combattre. Et puis quand l'ennemi vient, ils combattaient pas tellement. Et puis le verset descend pour le rappeler. Ya yuhalladina amanu limatakulu nama la taf'alu. Oh vous qui portez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et là, c'est aussi notre responsabilité. Nous sommes aussi responsables du phénomène de diabolisation parce que nos voix ne sont pas suffisamment fortes pour être entendues. Et ça veut dire qu'il faut qu'on pense à énormément de choses parallèles, mais je ne veux pas m'étendre sur tout ce qui concerne la communication, l'engagement des intellectuels à dire les choses et à s'exprimer au risque d'être critiqué, au risque d'être marginalisé parfois. Mais nous ne sommes pas là pour prévenir nos petits risques personnels. Nous sommes témoins d'un message et il faut en témoigner, quel qu'en soit le prix. Et donc, par rapport à cela, et c'est ma conclusion pour engager le débat, mais je voulais faire tout ce paysage-là, c'est donc l'alternative proposée. Est-ce que les musulmans et les mouvements apportent une alternative possible? Alors, je commence maintenant à dire l'envers et à prendre le contre-coup de ce que je viens de dire, non pas par contradiction, mais par complément. Et j'aimerais bien que les frères et les sœurs aussi, de ce point de vue-là, soient très pointus dans leur écoute. Parce que vous attendez des conférenciers qu'ils soient précis dans leur exposé, et les conférenciers ont le droit d'attendre de leurs auditeurs qu'ils soient méticuleux dans leur écoute. Parce que parfois, certains pensent qu'il y a une contradiction. Alors, je suis précis. Autant j'ai mis en évidence le fait qu'il ne faut pas supposer, par rapport à la diabolisation qui est faite de l'islam, que tout ceci n'est pas la seule responsabilité de l'Occident, autant je pense aussi, par ailleurs, que les musulmans, par rapport à l'Occident, doivent, de la façon la plus impérative, cesser la réflexion diabolisante sur ce qu'est l'Occident. Et nous avons, de ce point de vue-là, ou sur l'occidentalisation, nous avons, de ce point de vue-là, à être extrêmement rigoureux et extrêmement précis. Il y a des choses dans le processus d'occidentalisation que nous refusons et qui ne sont pas du tout en accord avec notre morale et avec nos références, il n'y a pas de doute. Mais de passer de ceci à la diabolisation de l'Occident et de faire avec l'Occident ce que nous n'aimons pas que l'Occident fasse avec nous, c'est une erreur. Et j'ai pu entendre dans les pays musulmans des propos sur les Occidentaux caricaturés qui sont, mais tout simplement, injustes par rapport à ce que sont vraiment ces sociétés-là. Surtout quand on y vit, on dit aux frères, mais vous n'avez pas le droit. Edfar billati hiya ahsan, quand on est injuste avec toi, tu ne dois pas être injuste avec les gens. Et il faut, par rapport à cette société-là, faire une analyse extrêmement pointue. Pourquoi? Parce que l'alternative que nous pouvons proposer en tant que musulmans, ce n'est pas d'oublier d'effacer tous les apports occidentaux, ce n'est pas vrai. Ça va être de prendre tout ce qui, en Occident, a été et fait partie du patrimoine humain et qui est finalement l'étoile, une des étoiles de la dignité des hommes. Parce que la production intellectuelle, rationnelle et intelligente qu'il y a eu en Occident, elle nous appartient, elle appartient au patrimoine de l'humanité. Et que nous allons prendre de ce point de vue-là tout ce qui est important. Sur 6 plans, je pense qu'il y a quelque chose que les musulmans peuvent apporter qui se présente comme une alternative fondamentale au processus de la mondialisation, au processus des questionnements pour l'avenir. La première des choses, pour moi, elle n'est pas rien. Et aujourd'hui, en Occident, j'interpelle beaucoup mes interlocuteurs, qu'ils soient de la religion ou qu'ils soient simplement des philosophes ou des acteurs sociaux ou même des journalistes. Aujourd'hui, quand il semble qu'il y ait une telle démission de ceux qui portent témoignage de la foi et de la religion en Occident, eh bien, les musulmans, et vous au premier chef, parce que vous êtes une société qui a préservé ceci, et je vous promets que quand on vient, on le sent, c'est la mise en avant comme étant une des dimensions prioritaires de l'homme, de sa spiritualité, de sa foi. la question de la spiritualité à l'époque moderne. Et quand vous regardez toutes les richesses de l'Occident, eh bien, je peux vous dire qu'il y a une famine qu'il ne faut jamais oublier. Toute cette richesse est une famine qui est en train de produire des attitudes qui vont aller chercher dans les sectes des solutions. C'est la famine spirituelle qui se double d'un analphabétisme religieux. Eh bien, nous, de ce point de vue-là, quand le monde entier oublierait la dimension transcendante, oublierait le rapport à Dieu, oublierait la spiritualité, l'un des grands apports de l'islam aujourd'hui, c'est de dire: quelque modernité que vous nous proposiez, cela ne peut être aux dépens de notre cœur et aux dépens de notre foi et aux dépens du fait pour nous de servir Dieu subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cette dimension, je la mets en tête. Pour moi, elle est fondamentale. Et je pense que nous devons être conscients de notre responsabilité à témoigner de cela. Et c'est ce que veut dire nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Le juste milieu dans tout, mais le juste milieu aussi avec la capacité de maîtriser les éléments, mais également la nécessité de témoigner de la foi. Pour que vous soyez témoins devant les gens. Et aujourd'hui, l'une des alternatives pour moi, c'est d'être un peuple témoin, c'est d'être une communauté témoin. Témoin du fait de dire: la spiritualité est au cœur et rayonne pour nous, au cœur de tout ce que nous faisons. Et ça nous amène sur l'autre plan, qui est pour moi aussi fondamental, c'est la question du sens et des valeurs. De s'arrêter auprès d'un économiste, de s'arrêter auprès de personnes qui ont une formidable maîtrise des outils, et de leur poser la question très simple. Celle que n'importe quel musulman et musulmane ou communauté musulmane ne peut pas ne pas poser. À quoi ça sert? Quel est le sens? Et quelles sont les valeurs que vous mettez là-dedans? Et ça va vouloir dire pour nous que tous ces instruments de la technologie vont pour nous et doivent pour nous être réinvestis par le sens et par la valeur et par notre volonté de rester lié à ces valeurs. Eh bien, je vais vous dire une chose. L'un des phénomènes qui fait le plus peur à la mondialisation, c'est un nouveau phénomène très important. C'est ce qu'on appelle le phénomène de transnationalité, le transnational des mouvements islamiques, qui sont maintenant dans le monde entier. Ça, c'est complètement nouveau, il y a un phénomène. Eh bien, dans toutes les sociétés, il y a cette question éthique qui se pose, d'apporter la question de la spiritualité, la question de l'identité, la question du sens. Et pour nous, c'est vraiment, il faut qu'on pense, je veux dire, j'aimerais bien rappeler aux frères et aux sœurs que notre débat, ce n'est pas de savoir quand est-ce qu'on prend le pouvoir, ça ne nous intéresse pas, c'est de témoigner en face de ce pouvoir que nous ne sommes pas des instruments et nous ne voulons surtout pas devenir des bêtes. C'est ça dont nous devons témoigner. Et quand un pouvoir comprendra et ira dans ce sens-là, quels que soient les gens qui y sont, nous sommes avec lui. Nous ne voulons pas y être, nous. Le but, ce n'est pas ceci. Le but, c'est une population qui demande à son pouvoir et qui demande à toutes les autorités et à toutes les personnes qui s'engagent: n'oubliez pas le sens, la spiritualité. Donnez-nous la nourriture spirituelle comme nous avons droit à la nourriture matérielle. Eh bien, pour nous, ça, c'est une question de cette alternative. Surtout dans un monde qui semble aujourd'hui oublier ses repères. L'un des grands problèmes en Occident, c'est cette question des repères. Mais attention à la caricature. Comme j'ai pu entendre, de toute façon, ils vivent n'importe comment. J'ai même entendu dans la bouche d'un musulman que je respecte et chez qui je suis allé, c'est un cher, je suis allé lui dire qu'il ne fallait pas parler comme ceci. Quand il utilise le terme, il dit: ce sont des chiens, ils n'ont pas de morale. Je dis: c'est pas vrai. Je ne vis pas avec des chiens. Et ils ont pour certains de la morale. Et je vous promets que quand vous vivez en Europe, vous voyez tellement de souffrances chez des gens qui se posent le sens de leur vie, qu'on n'a même pas le droit de parler comme ça. On n'a pas le droit de parler de l'Occident de façon si caricaturale, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui cherchent, parce qu'il y a des gens qui résistent. Et qu'on n'a pas le droit de mettre tout le monde dans le même paquet. J'ai pas le droit de faire ça avec l'Occident, comme j'attends d'un occidental ou d'un français ou d'un anglais ou d'un américain qu'il ne me confonde pas avec le dernier homme qui a fait la chose la moins respectable et qui était musulman. Je ne veux pas qu'il me confonde avec ça. Je ne peux pas le confondre avec ça. Et ça, c'est une dimension qu'il faut rappeler. Deuxième domaine, je ne vais pas insister là-dessus, mais j'en ai parlé, c'est vraiment de l'éducation. Et là, dans tous les pays musulmans, à côté des structures de l'éducation, eh bien, on voit quelque chose qui se développe et sur lequel il va falloir aussi, qui se présente aussi comme une alternative importante. C'est une éducation de l'être. Aujourd'hui, et c'est une question aussi qui se pose chez beaucoup de pédagogues en Europe, l'éducation qui se tourne vers le savoir-faire uniquement et la compétence dans la maîtrise. On apprend aux gens à parler bien. Et nous, on dit, il faut aussi qu'ils apprennent à parler pour le bien. Bien parler ne suffit pas. Il faut parler pour le bien. Et ça s'apprend aussi dans les sphères de l'éducation. Et cette école, qui pour nous est fondamentale, qui lie la dimension de l'être et du sens, est de répondre à une école extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, donner à un homme une éducation qui lui permette uniquement de maîtriser des outils sans la conscience de son être et la conscience de sa responsabilité, c'est éduquer un être dangereux. On a aujourd'hui des systèmes d'éducation qui peuvent être extrêmement dangereux parce que c'est la performance, parce que c'est la sélection, parce que c'est la productivité. Et j'aime beaucoup cette réflexion d'Albert Jacquard qui dit « Aujourd'hui, la société... On lui dit on a besoin de 10 économistes, elle doit se plier au diktat de 10 économistes. » Eh bien, il affirme, et il dit ceci de cette façon-là, il dit ben, « J'affirme que cette école a démissionné de son rôle. » Et il a raison. On veut une école qui forme des êtres. Eh bien, dans tout ce que j'ai pu visiter, en Asie, en Afrique, dans le monde musulmans. Et là, on se rejoint avec énormément de choses qui se passent en Amérique du Sud. Eh bien, on voit des réflexions sur l'éducation qui sont intéressantes et qui vont se développer dans une éducation globale plus importante. Et nous devons apporter notre contribution. Alors, ça ne doit pas être une contribution de personnes qui sont assises, qui regardent l'école sénégalaise en disant « De toute façon, il n'y a rien là-dedans. » Non. C'est une véritable mobilisation pour faire tout un travail de réflexion sur l'école, sur ce qui est enseigné, et puis de proposer aussi des structures parallèles. Eh bien, tout ceci doit être fait, et il y a énormément de choses qui se sont faites dans le monde musulman. L'une des choses que je rappelle dans cet ouvrage-là, c'est que la réussite de la pensée réformiste en Égypte est essentiellement due à un projet éducatif. Pas la volonté de pouvoir, ça ne nous intéresse pas. On veut des êtres humains, des femmes et des hommes qui savent qui ils sont, pour qu'ils puissent décider ce qu'ils veulent faire de leur société. Mais pas une espèce d'omnubilation ou de concentration fermée et obtuse sur l'enjeu du pouvoir en oubliant qui tu es. Parce que finalement, tu ne fais que te remplacer par ceux que tu veux remplacer, te mettre à leur place, et tu deviens un être cupide à la place d'autres êtres cupides. L'éducation est la clé de cela. Donc, l'être, plus que le simple savoir-faire. Mais attention, on met un ensemble, c'est-à-dire donner la part aux deux. Et là aussi, il faut travailler au savoir-faire, à la maîtrise des techniques, à la maîtrise de l'informatique, à la maîtrise des technologies. Pourquoi ? Pour réinsuffler un sens à ces techniques, pour leur redonner aussi, dans ce qu'on a dit, une éducation, quelque chose. Ça ne nous intéresse pas, nous, les ordinateurs qui peuvent nous faire perdre le sens moral et le sens éthique par tout ce qu'on y a mis, par tout ce qu'on y a mis qui est véritablement toutes les voies de la perdition morale. On ne veut pas de ça. Mais l'ordinateur, pour rendre plus performante notre information, pour rendre plus efficace notre travail, pour rendre plus important également notre capacité à multiplier l'édification des êtres, bien entendu, ça nous intéresse. Bien entendu, ça nous intéresse. Et là, c'est une éducation à la maîtrise du savoir-faire, bien entendu. La dimension sociale, la voie de cette alternative. Jamais une musulmane ou un musulman qui a compris le sens de ces références ne pourra accepter que même dans une société riche, il y ait 24 millions de chômeurs. Jamais. Une musulmane et un musulman ne pourra admettre dans une société qu'il y ait 60% d'analphabètes. Et pour nous, ça fait partie des priorités. Et l'alternative pour nous, c'est de rappeler ceci. Quand le monde oublierait ceci, eh ben nous devons être partout. La voix qui dit, c'est inadmissible. Et Allah SWT ne peut pas être satisfait de nous dans cette démission au nom de l'efficacité, de la dignité des hommes. Et vous voyez que ceci aussi, dans cette dimension, est un phénomène de résistance. Un phénomène de résistance. Et tous les mouvements du renouveau musulman ont placé comme l'une de leurs principales, l'un de leurs principaux objectifs, la dimension de la lutte contre l'analphabétisation et de restituer aux êtres cette dimension-là. Et nous, pour nous, ce doit être un travail, encore une fois, vous avez bien compris, je ne parle pas de rapport au pouvoir, là je parle de rapport à la société. Former une société musulmane, et une société musulmane, elle part de ceci, elle part de la conscience de sa spiritualité pour chacun et pour tous, elle part de la compréhension de cette éducation pour chacun envers tous, elle part fondamentalement de la nécessité de cette solidarité de chacun pour tous. Devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme une exigence fondamentale de ce projet-là. Et ça, c'est une formidable résistance. Tenir ce discours-là, certains ont dit, c'est un discours qui est un peu à gauche. Ça ne m'intéresse pas qu'il soit à gauche ou à droite. Ce qui m'intéresse, c'est que de la compréhension qu'en tant que musulman, aujourd'hui, les mouvements qui se réfèrent à ceci, mettent cela en avant comme étant leurs principaux objectifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que c'était le sens de leur révélation, le sens de leur message. Et ça, aujourd'hui, vous le faites au Sénégal, aujourd'hui, d'autres pays le font, et il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont en train de sortir. Bien entendu, pour certains, ils doivent faire face aux dictatures, mais c'est une alternative de résistance par rapport à ce qui nous est proposé comme un monde de la pure maîtrise, de la pure logique économique, et nous avons d'autres logiques que nous devons présenter. Et si nous ne pouvons pas le faire sur le plan international, commençons par le local. Et la bonne réflexion de l'un des responsables de CENI était une chose qui était tout à fait islamique. Agir localement, penser globalement. Agir localement et avoir une pensée globale. Et de savoir aujourd'hui que ce que vous faites de petite envergure au Sénégal, d'autres le font de petite envergure dans un autre pays, d'autres le font de petite envergure, et c'est ce qui fait peur. Des milliers de petites envergures, ça fait une formidable envergure. Sur le domaine également politique, j'aimerais vous engager à réfléchir, et c'est aussi là une des choses qui est très très importante. L'une des grandes crises dans les sociétés modernes, c'est la démission des citoyens. La démission des citoyens, c'est effectivement très très peu de formation civique. Et on a des taux moyens de 30 à 40%, si ce n'est parfois aux élections présidentielles, mais sinon on a une démission de la compréhension de l'enjeu participatif. Et même une sorte de déception de la part des citoyens. Eh bien, de notre point de vue, et ça c'est aussi une chose qui s'est vue dans tout ce renouveau islamique, réapproprier, faire en sorte que se réapproprient les citoyens, qu'ils se réapproprient cette dimension de participation sociale, de la dimension également de du pluralisme, est une chose à laquelle nous devons appeler de la façon la plus claire. C'est à l'état de droit. Et là, vous devez faire aussi entendre une voix, parce que, quelles que soient les déficiences de la société dans laquelle vous vivez, ici au Sénégal, il en existe comme dans toute société, et c'est aux Sénégalais, aux Sénégalaises de faire le travail qui consiste à une réforme interne, intérieure, pour aller vers le mieux. Mais vous avez, je le répète en permanence, des libertés que d'autres n'ont pas, un état de droit relatif comme tous les états de droit, qu'il faut rendre plus performant, mais il faut reconnaître que dans beaucoup, beaucoup de pays musulmans, ils n'ont pas le centième de la liberté qui vous est donnée ici. Ça multiplie votre responsabilité devant Dieu, c'est certain, mais pour nous, ce qu'il faut comprendre aussi sur un plan beaucoup plus général, c'est que nous devons appeler à ce respect de l'état de droit et que c'est une des approches fondamentales que nous avons à proposer. Et ce n'est que maintenant que je place la question de l'économie. en mettant en évidence le fait que dans l'alternative économique, c'est le plus difficile, mais en même temps, une des dimensions importantes de l'engagement. Les forces aujourd'hui en jeu sur le plan économique mettent en évidence que la maîtrise est extrêmement difficile, que la mondialisation, les modèles proposés par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale sont des modèles qui s'imposent généralement et il est difficile pour un État d'essayer d'en sortir. Vous en savez quelque chose dans un projet qui a été brusquement arrêté au Burkina Faso d'un homme qui voulait essayer quelque chose de différent et qu'on n'a pas laissé longtemps, on ne lui a pas laissé de grande marge. Je parle de Sankara. Eh bien, et d'autres à une échelle beaucoup plus relative, que ce soit en Égypte, que ce soit dans les pays asiatiques aujourd'hui, où la crise a passablement fait stopper des projets intéressants, eh bien, c'est vrai que là, c'est une question qu'il faut analyser avec beaucoup de rigueur, mais qui nous renvoie peut-être à une chose. Ce qui nous est donné aujourd'hui comme alternative, c'est de penser pour le monde en développement à des engagements plus locaux, plus régionaux, de mobilisation, de coopératives de développement, de... Chairman Sourci hier parlait du microfinancement qui est à l'exemple de ce qui s'est fait en Bangladesh par Yunus, qui a été même repris comme exemple par la Banque mondiale. Eh bien, on a aussi, de ce point de vue-là, des choses qui se passent. Et j'aimerais vous rappeler simplement qu'en 1940, en Égypte, eh bien, il y a eu énormément d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, de sociétés de coopération qui se sont développées, qui ont eu une force très très importante à cette époque-là, en s'en tenant aux principes islamiques. Et que ce mouvement-là est en train de venir. C'est une situation qui est fort complexe, extrêmement difficile, mais qui nous demande à un niveau local et à un niveau régional de réfléchir. Et aujourd'hui, il y a des gens qui tentent des choses extrêmement intéressantes. Je ne parlerai pas de la situation politique et des libertés qui se passent dans le pays. J'ai eu l'occasion de le faire par écrit. Mais c'est vrai que quand j'ai visité le Soudan, à l'époque où l'embargo était extrêmement tenace, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise. C'est l'orientation de toute une économie vers quelque chose qui m'a fait comprendre pourquoi c'était un danger pour les États-Unis. Des priorités qui ont été mises. Un, à l'agriculture. Et les cultures vivrières d'abord. Développer, et c'est ce qui s'appelait là-bas le djihad pour l'agriculture. Développer une mobilisation de la population pour l'autosuffisance. Avec en plus de ceci quelque chose d'intéressant, la délocalisation des universités et l'enseignement des techniques correspondant au terreau, à l'environnement de là où se trouvait l'université. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une pensée complètement neuve. Eh bien, on nous a annoncé que c'était uniquement pour des raisons politiques que l'embargo était fait au Soudan. On a beaucoup dit de choses qui n'étaient pas vraies sur le rapport avec le Sud, même si du point de vue des libertés, il est certain que c'est un pays qui n'offre pas les garanties de la liberté aux opposants. Pour y être allé, j'en témoigne, mais ça ne justifie de loin pas l'embargo qui est orienté vers le Soudan, parce que alors si on s'en tenait uniquement à la question de la politique et de la répression, il y a beaucoup de pays qui seraient prioritaires dans la liste. Beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays. Mais donc il y a aussi un projet, une vision économique ici extrêmement intéressante, délocalisation, prise en charge. Et pendant plusieurs années, la croissance a été de 11 à 13% au Soudan malgré l'embargo, c'est-à-dire la capacité à faire quelque chose de l'intérieur. Mais évidemment, les choses se prolongent. Et puis, aujourd'hui, on ne sait même pas si l'industrie pharmaceutique... On nous annonce qu'on ne sait même pas ce qui s'y passait. Et manifestement, tous les diplomates qui étaient présents là-bas, ils ont mis en évidence que ça n'avait rien à voir avec des instruments chimiques. Mais il fallait mettre aussi un terme à une évolution qui était très très importante depuis quelques mois d'ailleurs, des relations avec l'Europe extrêmement intéressante qui était en train de se développer dans une vision d'un projet à l'intérieur intéressant. Encore une fois, ça demande de l'analyse plus profonde, mais c'est aussi sur le plan économique quelque chose d'intéressant. Tout ceci mis ensemble met en évidence que trois choses. Le phénomène transnational de la mobilisation des musulmans est ce qui interpelle beaucoup aujourd'hui les intellectuels et les politiciens et qui font sans doute la grande peur. Pour ce qui nous concerne, plutôt que de craindre tout ce qui peut être dit sur l'islam, il y a sans doute deux choses à faire. D'abord, par rapport à l'avenir, de développer un discours clair et un discours construit en langue compréhensible. Et là, vous avez un rôle majeur. La langue anglaise et la langue française doivent trouver aujourd'hui des frères et des sœurs qui s'expriment et qui expliquent exactement le cadre dans lequel et auquel ils se réfèrent. Deuxième des choses, c'est un engagement permanent dans tous ces domaines dont j'ai parlé et qui sont aujourd'hui le fait de beaucoup de mouvements, mais vis-à-vis desquels il faut encore développer l'activité à tous les niveaux. J'aimerais dire autre chose encore par rapport à ces mouvements dont je n'ai pas parlé, mais qui est phénoménal. Dans tous les pays que j'ai visités, la mobilisation des femmes a quadruplé, voire cinquuplé, dans pratiquement tous les mouvements musulmans. Quand on va au Pakistan, par exemple, où j'étais cet été, et que j'entends des frères en disant « mais maintenant, la mobilisation des femmes a dépassé la mobilisation des hommes dans le mouvement. » Et au Pakistan, dont on pourrait s'attendre qu'il soit très très traditionnaliste, et vous avez les responsables qui vous disent « elles ont véritablement pris les choses en main, elles sont intellectuellement formées, religieusement orientées, mais aussi socialement présentes, au niveau éducatif, au niveau de la formation. » Et ça, c'était le cas déjà dans les années 40, mais aujourd'hui, on le voit. On fait des conférences sur l'islam en Europe, la moitié de la salle est constituée de jeunes femmes qui sont présentes, qui ont envie d'apprendre leur religion et qui sont engagées dans ceci. Ici, au Sénégal, combien ? Il y en a un certain nombre ici, mais on a vu également dans énormément de rencontres une présence féminine qui dit une chose. Nous voulons respecter notre religion. Nous avons une identité. Ça ne veut pas dire qu'on disparaisse de la scène sociale. Et ça ne veut surtout pas dire une chose, que pour être une femme libérée, il faut forcément ressembler au modèle de libération de l'Occident. Parce que ça, c'est ce que nous devons apporter aussi. Un nouveau modèle de présence féminine dans son être et non pas dans son apparence. Dans son intelligence et non pas dans sa séduction. Dans son être affirmé comme étant non monnayable quand parfois on a l'impression qu'on monnaie l'image. Et puis surtout une autre chose qu'il faut affirmer très très clairement, nous sommes pour cet engagement des femmes à dire à compétence égale, salaire égal, à travail égal, salaire égal. Il n'y a absolument pas de discussion sur l'ensemble de tous les textes islamiques. Qui donne un travail reçoit le salaire qui est nécessaire de son travail pour un homme comme pour une femme. Et puis, cette présence-là, aussi, il fallait en dire un mot parce qu'elle est importante. Donc, un, élaborer un discours. Deux, avec ce discours, un engagement particulier. Trois, entrer dans un dialogue positif avec l'ensemble des partenaires de bonne volonté en Occident. Et je vous promets qu'il y en a, et il y en a de plus en plus. Un dialogue fécond, non pas d'opposition à l'Occident, mais de relation avec des personnes qui sont exactement dans cette même logique d'opposition à une économie sans morale, d'opposition à une mondialisation sans dignité, de résistance à des logiques d'informations abêtissantes. Vous en avez beaucoup. Il faut entrer en contact et développer des partenariats. Et la troisième dimension, et j'insiste beaucoup là-dessus, nous sommes et nous devons nous considérer tous, dès qu'un musulman et une musulmane se comprend devant Dieu, il sait qu'il est un témoin et un réformateur. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir, nous sommes là pour le témoignage. et nous réformerons les sociétés pour mieux témoigner de notre fidélité à Dieu, parce qu'un jour nous devons rendre compte de ce que nous avons fait de nos vies. Mais ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse. Alors beaucoup de frères hochent de la tête et beaucoup de sœurs sont d'accord. Mais entre hocher de la tête et vivre avec cette exigence de ne pas aimer le pouvoir, il y a un monde. Et j'ai rencontré énormément de frères qui me disent « t'as raison ». Mais entre le fait qu'ils disent que j'ai raison et le fait d'avoir assimilé qu'ils ne sont pas pour le pouvoir, il y a encore une longue éducation. Et il faut que nous nous éduquions. Merci beaucoup.